difficile. Donc, 2 Timothée 2, verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Alors, moi je comprends ce passage ainsi. Dans une maison, autrefois, il n'y avait pas les, bacs plastiques et les... et tous les ustensiles en plastique, tout était en Orient en poterie. Donc je comprends qu'il y avait des vases nobles, qui contenaient peut-être des fleurs, ou de l'alimentation, ou du vin, mais il y avait aussi peut-être des ordures dans un vase. Paul prend cette image du vase à ordures en disant un vase à déshonneur. Mais l'application qu'il en fait a été... ce passage a donné lieu à bien des spéculations et pas seulement des applications, mais des spéculations hasardeuses. Comment se sanctifier d'un vase à déshonneur? Qu'est-ce que c'est que ce vase à déshonneur dans son application morale? Eh bien, le passage est quand même assez simple. Il y en a deux vases à déshonneur dans ce passage, c'est Hyménée et Philète. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux? Ils se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, renversant la foi de quelques-uns. Alors attention de ne pas traiter un chrétien ou un autre légèrement de vase à déshonneur comme on l'a fait. Les vases à déshonneur, ce sont peut-être des croyants, enfin... Hyménée et Philette, on peut en douter. Ce sont des personnes qui s'écartent gravement de la vérité fondamentale. Alors oui, ce sont des vases à déshonneur dont il faut se séparer. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec un autre chrétien sur le millénium que je vais dire c'est un vase à déshonneur. Ah non. Et le critère, je crois, c'est... renversant la foi de quelques-uns. Alors évidemment, si ça renverse la foi, il faut que je me sépare de ce vase à déshonneur. D'autre part, un vase sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Ici, le vase est préparé, c'est le maître qui prépare. Dans Éphésiens 2, ce sont les bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et dans Luc 12, l'esclave, c'est la forme négative, l'esclave, il connaissait la volonté de son maître et il ne s'est pas préparé. Donc j'aime bien rapprocher ces trois passages, parce que là, nous avons la souveraineté du Seigneur Jésus, du maître, il nous a formés comme un vase spécial. Moi, je voudrais peut-être être une sœur. Eh bien non, je ne suis pas une sœur, je suis un frère. Il y a peut-être une sœur qui voudrait être un frère. Eh bien non. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il nous a préparés comme ça. Et il nous a donné... Moi, je voudrais peut-être avoir des talents musicaux, mais non. Et un tel voudrait avoir d'autres talents qu'il n'a pas. Eh bien non. Préparé par le maître. Alors, c'est comme si un vase avait une certaine volonté et voulait avoir une forme spéciale. Eh bien non, le maître dit non, moi, je vais te faire autrement. Donc là, c'est le maître qui prépare pour tout bonheur. Quel bonheur? Celles qui sont préparées sur notre chemin. Nous n'avons pas forcément à nous casser la tête. Elles sont préparées sur le chemin. Il s'agit pour nous de les voir et de demander au Seigneur de les discerner. Elles ne sont pas loin de nous, ces bonnes œuvres. Elles sont préparées afin que nous marchions en elles. Peut-être je voudrais faire les œuvres qu'un autre frère fait. Non, ce n'est pas les miennes. Les miennes, elles sont sur mon chemin. Et je suis qualifié, je suis formé pour ces œuvres-là. Troisième passage, on dira j'ai rien à faire. Non, connaissant la volonté de mon maître, connaissant mes talents, ce pourquoi il m'a formé, eh bien je dois aussi me préparer, me former. voilà qu'une bonne œuvre est faite sur mon, est préparée sur mon chemin. Mais bon, ça ne veut pas dire que je sois apte à la faire tout de suite. Alors, il faut que je me prépare. Alors, vous repenserez à ces trois passages. Le maître qui prépare le vase, les œuvres qui sont préparées pour le vase qui est formé déjà, et le, maître, le serviteur, le vase qui se prépare. Bon, alors, autre passage. Il y en a beaucoup, mais nous allons encore deux passages dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 19, donc dans le chapitre de la génisse rousse et de l'eau de purification, je lis au verset 14, « C'est ici la loi lorsqu'un homme meurt dans une tente, et quiconque entre dans la tente, et tout ce qui est dans la tente sera impur 7 jours, et tout vase découvert sur lequel il n'y aura pas de couvercle attaché sera impur. » Alors, vous voyez cette grosse cruche-là. Bon. Alors, si elle était dans la tente d'un Israélite, si elle était non couverte comme ça, ce qui était dedans était souillé s'il y avait un corps mort dans la tente. Mais s'il y avait le couvercle, ce qui était à l'intérieur était protégé. Ça nous fait penser à quoi ? La cruche découverte, le vase découvert, ça nous suggère les enfants dans les familles chrétiennes. Ce sont des vases, mais ce sont des vases fragiles parce qu'ils n'ont pas de couvercle, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas encore le discernement du bien et du mal. Et là, ça ouvre un grand chapitre, surtout avec Internet. Qu'est-ce que les enfants regardent sur Internet et même à la télévision? Ce sont des vases découverts. Ils n'ont pas encore le discernement. Ils captent tout, les enfants. Et même ce qu'ils ne doivent pas voir et recevoir. Ce sont des vases découverts. Et alors, c'est un grand chapitre pour les parents qui ont des jeunes enfants. Est-ce qu'il y a... Oui, il paraît qu'il y a des couvercles, qu'il y a des filtres sur Internet pour éviter qu'ils voient certaines choses. Est-ce que c'est efficace? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un grand exercice à l'heure actuelle pour les parents de jeunes enfants, et même de pré-ados, et même d'ados. Comment contrôler tout ce qu'ils voient? Ce sont des vases découverts. Et l'adulte, lui, en principe, nous avons le couvercle, c'est-à-dire nous avons le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Encore faut-il que nous soyons dans un état de piété et d'exercice et de lumière intérieure par la parole de Dieu qui nous donne le discernement du bien et du mal. Il est bien dit dans les Hébreux, exercer. C'est comme l'athlète qui s'exerce en permanence à discerner le bien et le mal. Je passe rapidement à un autre passage, qui sera probablement le dernier d'ailleurs, dans Ésaïe 22. Ésaïe 22, verset... Ah, je dois commencer au verset 20. Ésaïe 22, verset 20. Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkija, je le revêtirai de la tunique et je le fortifierai avec la ceinture et je mettrai ton intendance en sa main. Il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule et il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Et je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un trône de gloire pour la maison de son père, et on y suspendra sur lui toute la gloire de la maison de son père. Les descendants et les rejetons, tous les petits vases, tant les coupes que toutes les amphores. Alors, ce n'est pas pour présenter tout ce passage, parce que ça a certainement à la fois une valeur historique et aussi prophétique. Mais ce qui m'intrigue, c'est ces petits vases, ces coupes et ces amphores. Dans la maison de Dieu, il y avait ces trois catégories. Alors, vous voyez, déjà, une amphore, c'est quand même important, c'est comme volume. Là, un petit peu plus petit, et tout petit. On aurait pu encore trouver plus petit. Bon, parfois, on se laisse impressionner par les grands frères, comme on dit, les missionnaires, les prédicateurs, et peut-être les grandes amphores, mais ça tombe mal parce que, justement, celle-là, elle ne sert plus. Mais celle-là, elle sert tous les jours. Il y a du sel. Donc, il ne faut pas nous laisser impressionner par les grands services extérieurs. D'ailleurs, même nous, prédicateurs, nous ne sommes pas prédicateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est qu'une infime partie. La plupart du temps, nous sommes au ras des pâquerettes comme tout le monde. Dans les circonstances de la vie, un simple chrétien ordinaire. Alors les grosses amphores, attention d'ailleurs. Je me suis fait reprendre, je vais vous raconter une petite histoire, je me suis fait reprendre vertement par un frère autrefois, enfin il y a quelques années, par un frère André Spic. Il tenait donc, était colporteur, tenait son stand à la foire du Puy. Et puis d'ici, une après-midi, plusieurs fois, je suis allé lui rendre visite, passer l'après-midi avec lui, comme un lien de communion, parce qu'il était un peu dans notre région. Et tout en discutant avec André Spic, je lui ai dit, mais vous qui êtes à plein temps pour le service du Seigneur. Et il m'a dit, quoi, Lucien? Et toi, tu n'es pas à plein temps pour le service du Seigneur? Ah ben j'ai compris. C'est vrai qu'à plein temps pour le service du Seigneur, nous employons cette expression des frères qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de salaire et qu'il faut vivre de dons. Bon, entre nous, nous savons bien ce que ça veut dire. Mais j'y ai quand même appris la leçon. J'étais vraiment à plein temps pour le Seigneur. Et nous sommes tous ici dans cette salle, tous les jeunes. Enfin, si vous êtes croyants, vous êtes tous à plein temps pour le Seigneur. Vous ne le saviez pas, c'est une découverte hein, ce soir. Vous faites. Vous êtes tous à plein temps pour le Seigneur. C'est beau. Ce n'est pas seulement les missionnaires à qui on envoie de l'argent. Donc ça a aussi une implication forte. Hein. On est à plein temps pour le Seigneur. C'est qu'il n'y a pas de département de notre vie qui ne soit pas sous l'autorité du Seigneur. À ce moment-là. Et que nous soyons soumis à sa volonté pour ce qu'il veut. À l'étape de la vie à laquelle nous sommes. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laisser impressionner par les grosses amphores. Et il s'agit qu'elles soient utiles et qu'elles soient à la bonne place. D'ailleurs, à ce propos, c'est une expérience, je pense, que tous les maris ont faite ici. Parce que un jour ou l'autre, par exemple l'anniversaire de notre épouse, nous voulons lui faire plaisir, nous lui achetons un petit cadeau. Nous allons parfois à la parfumerie. Bon, alors le parfumeur, il nous fait voir de l'eau de Cologne, un grand flacon. C'est pas trop cher, ça va. Et puis il nous fait voir un peu plus pur, le parfum un peu plus concentré, la bouteille moyenne. Ah, c'est déjà plus cher. Puis il nous fait voir le parfum pur, toute petite bouteille, 10 fois le prix de l'eau de Cologne. Et c'est pur, et c'est tout petit. Alors voyez, il ne faut pas se laisser impressionner par le grand flacon. Hein. Et oui, alors peut-être que nous sommes un petit flacon qu'on ne voit pas beaucoup. Il n'est pas sur une estrade celui-là, mais il est plein de parfums purs pour le Seigneur, comme celui de Marie de Béthanie. Un parfum pur de grand prix. Tandis que Joseph d'Arimathée, le parfum de nardure de grand prix d'une livre, je crois. Une livre. Et celui de Joseph d'Arimathée, 100 livres. Oui, mais c'était une mixtion de myrrhe et d'aloès. C'était pas du concentré. Le concentré, il tient peu d'espace dans un petit vase. Et peut-être nous allons terminer cet après-midi avec cette pensée que ça peut être un petit vase. Nous pouvons être humbles dans le peuple de Dieu, pas très connus comme certains, mais remplis de quelque chose de très précieux pour le Seigneur. Je vous laisse aussi méditer ce passage, continuer de méditer ce passage d'Ésaïe 22, oui, les petits vases, les coupes, les amphores. Qu'est-ce que nous sommes? Mais on a dit que dans le ciel, il y aura des capacités différentes. Paul le dit d'ailleurs, chacun a sa capacité. Je pense qu'il fait peut-être allusion aux vases. Dans le ciel même, il y aura des capacités différentes, des vases de grandeur différentes, mais, aura-t-on dit, et c'est beau, tous seront remplis. C'est ça l'essentiel. Que Dieu bénisse sa parole, surtout.